Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre.
Nouvelle rencontre.
Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
Cube Radio. Une radio pas comme les autres.
Je rejoins Julia Pagé et Rémi Villemur. Bonjour à vous deux.
Bonjour. Bonjour.
Je voulais qu'on revienne absolument sur les propos de François Legault qui ont été dénoncés par François Legault. Je rectifie tout de suite le tir, ça a peut-être été mélangeant pour certaines personnes dans les médias en fin de semaine. L'avocat d'Abdullah Chaïk, l'homme de 26 ans qui a été abattu par la police, celui qui est présumément l'auteur de 3 meurtres à Montréal à bout portant. Son ancien avocat s'appelle lui aussi François Legault et il a dénoncé les propos du premier ministre parce que on a entendu le premier ministre du Québec dire « Je suis content qu'on se soit débarrassé de cet individu-là. » Rémi, est-ce que c'est des propos premier ministrables, ça?
C'est maladroit. Moi, je donne à peu près un 6,5 sur 10 sur la forme. C'est incontestablement imparfait comme discours. Par contre, moi, je suis pas mal à l'aise. Puis je me demande en fait combien de gens encore une fois le sont là aussi. Est-ce que c'est une minorité ou c'est une importante majorité? On peut critiquer le discours là, de François Legault, mais ça demeure à mon avis une réponse à un discours qui pose peut-être encore plus problème selon moi. À chaque fois qu'il y a des morts par balle, spécifiquement depuis 2 ans, nos élus nous disent qu'on va investir dans la sécurité, qu'on va investir dans la santé mentale, que la ville est sécuritaire. Que ça soit clair, là, il faut faire tout ça. Il faut investir dans la santé mentale, il faut investir dans la sécurité. Mais ces investissements-là ne viennent pas. On sait que c'est compliqué de mettre en place des politiques. On regarde les paliers de gouvernement se lancer la balle, le municipal au provincial qui la passe au fédéral. Et en fait, ce discours-là, en général, qu'on présente comme plus légitime que celui d'un François Legault, ben, il n'est pas rassurant. Quand on l'écoute, on n'a aucune raison de croire que la violence va arrêter. Puis en fait, on a une seule certitude, c'est bien malheureux, c'est qu'il va y avoir d'autres victimes. Donc la réponse de François Legault, c'est imparfait, mais c'est... c'est alternatif à un charabia institutionnel. Puis, encore une fois, il parle la langue des Québécois. Il exprime ce qu'il ressent, pour la plupart. C'est-à-dire, au fond, on va être honnête, un soulagement énorme d'apprendre que l'individu est hors d'état de nuire. Donc, c'est dur, c'est robuste. Mais contrairement au discours officiel, c'est rassurant. Puis, c'est rassurant aussi de savoir que le premier ministre fait confiance aux policiers, qui sont trop souvent méprisés puis traités comme des ennemis publics aussi.
De par ce que Rémi dit, Julia, penses-tu que c'est intentionnel au lieu d'être juste une gaffe de François Legault à ce moment-là où il fait juste parler du cœur? Qu'est-ce que t'en as pensé, toi?
C'est dur à dire, mais une chose est sûre, il a pris la voie facile. En tout cas, pour moi, c'est ça. Il sait que, comme Rémi le dit, une majorité des Québécois ont été horrifiés par les meurtres qui sont survenus à la file et qu'ils sont en majorité assez favorables à un discours plutôt dur, hein, un discours catégorique à l'endroit des meurtriers. Mais en adoptant la voie facile, il prend aussi une posture qui est contraire au droit. Ou peut-être juste qu'il démontre son incompréhension face au fonctionnement du système de justice. Dans les deux cas, c'est pas très réjouissant. Juste pour parler de ce même sujet vendredi dernier à ce micro, sachant que c'était un sujet complexe, avant de me prononcer, j'ai fait des recherches, j'ai lâché un coup de fil à mon amie avocate pour qu'elle m'explique ce qu'il en était d'un point de vue juridique. Et mon intuition de base, qui était de dire le suspect aurait pas dû être en liberté, a été confrontée et j'ai vu les choses différemment. Alors, je peux pas croire que M. Legault, le premier ministre du Québec, soit pas assez bien entouré pour avoir toutes les informations nécessaires pour se prononcer de façon intelligente sur un sujet comme celui-là. Donc, dire qu'il est content que la police se soit débarrassée du suspect, ça démontre vraiment un manque de sensibilité envers la condition du suspect, envers la famille et envers le fonctionnement de notre système de justice. Pour moi, venant d'un premier ministre, c'est inacceptable.
Surtout le terme « débarrasser », peut-être moi qui est venu plus me scier dans les oreilles, là, parce que comme tu le dis, cet homme-là, oui, était aux prises avec des problèmes de santé mentale. Puis même, Rémi, j'aurais préféré qu'il dise, si François Legault avait dit « je suis heureux que cet homme-là ait été mis hors d'état de nuire », je pense que ça aurait peut-être été moins heurté comme ça, si on veut, les propos. T'sais. Parler de se débarrasser d'un individu, c'est un peu un langage cow-boy. Malgré tout, ça fait marquer des points, peut-être, François Legault, Rémi, tu me disais?
Ben, probablement que oui, il gagne des points. Sauf que si on décide que c'est une erreur ou que c'est une gaffe, on peut pas du même coup imaginer que c'est une stratégie pour gagner des points. Donc en fait, soit c'est une stratégie qui a été réfléchie à l'interne, j'en doute honnêtement. Je pense que ça venait plutôt du cœur, c'est une intuition qu'il a eue. Mais moi, je pense aussi que ce que ça exprime, ce discours-là, c'est une certaine forme de sensibilité qui serait dirigée uniquement vers les victimes. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup de gens constamment dire, bon, la santé mentale, on doit traiter, on doit mieux s'occuper des gens qui ont des problèmes. Mais est-ce qu'on parle des victimes aussi? Est-ce qu'on parle des gens qui ont perdu un membre de leur famille? David Lemieux qui a perdu son père, qui attendait l'autobus, ce garçon qui faisait de la planche à roulettes. Donc, en fait, dans le discours de François Legault, c'est comme si ça voulait dire, j'ai de la sensibilité, puis c'est seulement pour les gens qui ont été victimes. Et en fait, on dit que les victimes, c'est plus la famille de l'agresseur ou l'agresseur, c'est seulement les victimes. Donc, c'est quand même nouveau et ça fait un peu du bien là, dans une ère qui est complètement concentrée à parler de santé mentale tout le temps. Là.
On le sait que c'est pas nouveau pour François Legault de faire comme ça des phrases à brûle-pourpoint qui sont après ça reprises un peu partout dans les médias, là, ce qui s'apparente souvent à des gaffes, l'air de venir justement de son fond du cœur. Je reviens à notre sujet d'intérêt à tous de la politique. Est-ce que ça pourrait venir le surprendre peut-être pendant la campagne électorale? Vous attendez-vous, là, je commence par toi, Julia, est-ce que François Legault nous ressorte peut-être cet automne des grandes phrases comme ça à l'emporter puis que ça puisse venir lui mordre le derrière?
Il pourrait se le permettre, en tout cas. Il peut se permettre pas mal de gaffes d'ici octobre. Il pourrait faire à peu près n'importe quoi, puis il serait quand même élu. J'attends vraiment la grosse gaffe qui ferait que son score baisserait. Je pense pas que ça va arriver. Donc, il peut se permettre de pas faire attention aux détails, d'y aller dans des phrases larges, un peu choc, qui vont plaire aux Québécois qui ont besoin d'une réaction forte. Quand dans les faits, face à cette situation-là, la raison pour laquelle on va parler du suspect, disons, pas plus tôt que les victimes, mais qu'on va aussi parler du suspect, c'est parce que quand on parle des suspects, on évite d'autres victimes. Si on est capable vraiment d'adresser les raisons pour lesquelles ce suspect-là a été en liberté, les raisons pour lesquelles il a commis le crime, on peut faire de la prévention. Donc, plutôt que d'aller dans ces nuances-là, le premier ministre souvent va faire des phrases choc. Et force est d'admettre que ça fonctionne, qu'il peut se le permettre. C'est dommage, mais c'est le grand jeu de la politique.
Grémy?
Moi, je pense que François Legault s'en sort toujours très bien. Il a déjà dit pire que ça. Là, moi, je me rappelle, c'est pas très vieux. Vous allez vous en rappeler à l'Assemblée nationale quand il a parlé de son collègue libéral comme
Pierre Arcan.
Il a dit quoi qu'il était. Oui, qu'il a dit qu'il pensait qu'il était mort. Donc ça, c'était peut-être encore pire. Puis, il s'en sort bien parce que les gens sont indulgents envers lui. Puis je pense que ça l'aide en fait cette possibilité. Qu'en fait, à chaque fois, ce soit une gaffe plutôt qu'une vraie démonstration d'une insensibilité de sa part. Donc, les gens sont très indulgents envers les gens qui se trompent. En tout cas, on est comme ça, les Québécois.
Hey, parlant de gaffe, quelle monumentale gaffe hier, un événement qui a des millions de dollars de budget, la Fierté organisée par Fierté Montréal. Évidemment, je parle du défilé de la Fierté ici dans nos rues. Montréal qui est reconnue comme étant une ville qui organise là une parade de la Fierté chaque année qui est mémorable. Ça faisait 2 ans qu'il n'y en avait pas. On veut revenir en force. Et c'est annulé le matin même parce qu'il manque 80 bénévoles. T'en as pensé quoi, toi, Julia, de cette espèce de bourde épouvantable hier?
Ouais, la Pride, c'est gros, t'as raison de le dire, c'est beaucoup de gens, c'est tellement d'argent, mais c'est surtout beaucoup d'émotions. Alors, c'est pas très étonnant de voir que, ça a créé beaucoup d'émoi, on savait pas au début où mettre la faute. C'est dans cette genre de foulée de confusion qu'on a blâmé la ville de Montréal, le SPVM. On savait plus trop qui blâmer, mais il fallait blâmer quelque chose parce que c'est tellement, tellement, tellement important, la Pride. Donc, c'était un moment où c'était facile de soupçonner qu'il y avait quelque chose de malicieux parce qu'il y a tellement eu de choses malicieuses envers les personnes de la communauté LGBTQ+. Ça a laissé cours à quelques excès, quelques spéculations un peu abusives, mais il faut voir que le fond est logique parce que c'est vrai que la Ville de Montréal, le SPVM, a contribué à l'homophobie à travers l'histoire. Donc, très particulier comme situation. On aurait voulu peut-être qu'il y ait un grand méchant loup. Finalement, c'était plus complexe que ça. Mais quelle Pride étrange cette année, vraiment.
Ouais, mais le blâme là tombe vraiment là avec les informations qu'on a ce matin. C'est vraiment Fierté Montréal. C'est les organisateurs eux-mêmes qui ont merdé le SPVM, la Ville de Montréal, qui ont appris ça dernière minute. Valérie Plante va réagir à 10h30. D'ailleurs, là, on s'attend en fait à ce qu'elle réagisse par rapport à ça. Hier, son point de presse n'était pas supposé être là-dessus du tout, mais sur la violence par arme à feu. Toi, Rémi, un organisme aussi énorme que la Fierté Montréal qui merde comme ça, qu'est-ce que ça dit? Tout à l'heure, on avait un activiste qui a travaillé à organiser une nouvelle marche hier à la dernière minute qui disait, mais ça a comme pas de bon sens que Fierté Montréal fasse ça, ça ne nous représente plus beaucoup. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi?
Je pense que Fierté Montréal est passé d'un organisme à un mouvement politique. Et moi, j'ai rien contre les mouvements politiques, mais ça prend du temps et de l'énergie pour s'entendre sur des revendications à l'intérieur d'un mouvement politique. Puis j'ai l'impression, quand je lis les revendications sur le site de Fierté Montréal, qu'il y a certaines de ces revendications-là qui peut-être prennent plus d'énergie et de temps qu'on pourrait l'imaginer, et que cette énergie et ce temps-là n'est plus consacré à l'organisation de la parade. Tu sais, on apprend dans un texte de Mario Girard ce matin dans la presse qu'il y a deux générations de militants à l'intérieur de Fierté Montréal, puis qu'on s'entend, il y a comme une espèce de clash, là. On s'entend plus sur certaines façons de procéder. Moi, je lis les revendications, là, la reconnaissance du racisme systémique, l'importance de rejoindre des luttes autochtones, par exemple. Bon, on peut décider que c'est des revendications importantes, mais ça n'a pas vraiment un lien direct avec Fierté Montréal. Donc, moi, mon intuition, c'est qu'on débat énormément à l'intérieur de l'organisme qui est devenu un mouvement politique, et on n'a plus de temps pour organiser la parade qui symbolisait l'unité de la communauté. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'hier, les gens se sont réorganisés autrement. Donc, les gens tenaient à se rassembler et à faire la fête. Puis, on a vécu une parade différente, tout simplement.
Au final, c'est peut-être pas, je te lance la balle, Julia, peut-être pas la meilleure des choses qui peut se passer, de voir que la parade, la Pride, allait être annulée hier, et finalement, contre vents et marées, ben il y a personne qui peut véritablement canceller la fierté.
Oui, c'est vrai que de canceller la fierté, c'est comme une très lourde tâche, impossible. C'est vrai que c'est réjouissant de voir que les gens se sont déplacés quand même, mais je trouve que dans la marche de la fierté à Montréal, que ce soit quelque chose que la ville appuie, que les policiers appuient, qu'il soit institutionnel, je trouve qu'il y a quelque chose de beau aussi là-dedans, de dire c'est officiel, c'est pas un mouvement complètement radical, ça fait partie de notre vie, ça fait partie de la fierté de la ville aussi. Donc, que ce soit quelque chose qu'une ville puisse organiser, qui soit complètement accepté, presque banal, bien qu'évidemment, ce ne le soit pas. Moi, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de beau là-dedans. C'est un beau symbole. Par contre, évidemment, j'aurais été vraiment déçue que les gens décident de rester chez eux. Mais ouais, vive la Pride bien organisée. Et pourquoi pas, la Pride pas organisée aussi. Il y a du beau là-dedans.
Ouais, mais puis lançons quelques fleurs quand même. On doit le faire, même si tu le disais, l'historique a vraiment été difficile. Mais hier, il y avait beaucoup d'injures lancées aux policiers du SPVM quand, au final, ils n'avaient pas l'ordre direct d'aller encadrer ces manifestations improvisées-là, et qui se sont déplacés, et qui sont allés encadrer, aider, protéger les gens qui ont décidé de marcher tout de même. On peut quand même saluer l'initiative puis les remercier pour ça. Je pense que ça vaut la peine parfois, même si l'historique est assez difficile. Merci Rémi, Julia, merci d'avoir été là aujourd'hui. On se reparle demain.
Merci. À demain.